Bonjour et bienvenue sur CoinStories.fr pour le 280e épisode de notre podcast. Aujourd'hui, quelques news qui sont tombées récemment et puis surtout pas mal de chroniques sur nos dernières lectures et nos derniers visionnages d'adaptation, notamment du côté série. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 280e épisode de Comic Stories. Aujourd'hui, une pelletée de monde, puisque je suis avec Boris.
Bonsoir à tous.
Anthony.
Bonjour.
Clément.
Bonsoir.
Et Erwan.
Salut.
Podcast A5, ça faisait longtemps. On va essayer d'être structuré et rapide, ce qui nous changera des fois précédentes. C'est un autotacle que je fais. On va commencer avec quelques news. Alors c'est toi Boris qui nous a mis une petite liste de choses récentes, récemment tombées, que tu as dû choper ici et là sur les internets. Alors il y en a la moitié dont je n'étais pas au courant. Et pour commencer par le sujet le plus important, on va commencer par le nouveau Spider-Man. C'est quoi ce délire?
J'ai découvert ça aujourd'hui, effectivement, en surfant sur Internet, un nouveau Spider-Man arriverait dans l'épisode 6 de la série de Tom Taylor. Alors, en anglais, francisé, il s'appellerait le Spider-Bite, ou le Spider-Bite. J'avoue que c'est un petit peu ça qui m'a...
Ah, je croyais que c'était... Ah non, je croyais que c'était vraiment un pénis araignée, moi, je sais pas, tu sais...
Alors, il n'y a pas de description, on ne sait pas. On peut imaginer, chacun va imaginer ce qu'il veut. Maintenant, bon, voilà.
Non, en fait,
voilà,
quand tu as écrit ça, je me suis dit, ah ok, c'est peut-être un espèce de tacle en mode clin d'œil, rigolo, on se fout de votre gueule à DC qui censure les bits, donc du coup, on met une spider bit. Mais en fait, non, c'est juste Spider-Bite.
Même pas. Okay. C'est, voilà, c'est son vrai nom. Je ne sais pas. Après, est-ce qu'un nouveau Spider-Man est bien utile? Je ne sais pas. Si...
Bah voilà. Non.
Enfin, je pense pas, mais...
Spider-Bite. Enfin,
ça se dit... Bah écoutez, on verra. C'est Tom Taylor, c'est ça?
Oui, c'est la série de Tom Taylor, mais... qui pour l'instant est plutôt sympa, mais bon.
Voilà. La traduction veut rien dire, en plus.
Bah oui, j'ai cherché un peu, je vois pas trop.
Spider-Bite,
Oui, bah...
Mordre, c'est ça?
C'est peut-être une grosse bouche, ouais. Je sais pas.
Je sais pas, il a l'air petit sur l'illustration, je sais pas.
Ah, mais c'est bizarre, okay. C'est bizarre. Bon. Ils sont vraiment pas inspirés, Marvel.
Tu aurais pu dire Marvel. Puisqu'on parle de Tom Taylor, du coup, toi, t'as relevé surtout Deceased,
ouais, voilà,
une sorte d'event estival un peu, non?
Oui, ça, je crois que c'est une mini-série qui va sortir avec des zombies. Batman va devoir affronter des zombies ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que ça va prévoir. A priori, c'est pour que Tom Taylor puisse s'amuser à tuer pas mal de monde. Maintenant, bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner.
Bah, moi,
j'aime bien
si,
Tom Taylor, donc bon.
Il y a déjà Dan Didio pour tuer des gens. On n'a peut-être pas besoin de... Deceased, ok. Elseworld, pas Elseworld, c'est surtout la question, en fait.
Bon, je pense que ce sera à part, oui, de l'univers classique.
Hein. Non, c'est pas dans le Black Label, du coup.
Je crois pas.
Bon, y a rien d'annoncé plus particulièrement par la sollicitation.
Non,
moi, clairement,
non,
si c'est
une série.
Ce enfin, moi, j'en... moi, le truc
c'est Superman Ryan Johnson, c'est tout ce truc.
Moi, le truc qui me fait peur,
comme si on les avait déjà lu,
c'est que si DC se la joue encore, là, moi, j'en peux plus de DC au niveau des retards de publication, mais j'espère qu'ils vont pas encore nous faire une Doomsday Clock.
Bah, il y a une série qui est en retard chez DC.
C'est laquelle?
Bah, Doomsday Clock. Le reste, ça sort quand même à l'heure.
Ouais, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est.
Donc, en fait, chez DC, il y a que Gary Frank qui est en retard.
C'est vrai.
Au final.
C'est vrai. Mais DC, c'est...
Oui, non, mais comme dit Anthony...
Ils ont fait un effort sur le jeu de mots.
Oui, c'est vrai. Non, mais comme dit Anthony, c'est vrai que c'est une histoire qu'on a déjà lue quand même, a priori, pas mal de fois. D'après la sollicitation du premier épisode, encore une fois, faut faire gaffe. Puis moi, si c'en est le sword, ça m'intéresse pas. Bon, éventuellement, si c'est vrai, l'univers proper, pourquoi pas, mais sinon, pourquoi
c'est pas... Même l'univers proper, est-ce qu'il y aura de réelles répercussions? Faut déjà attendre de voir ce que ça va donner... Par exemple, sur Heroes in Crisis ou même les répercussions de Doomsday Clock, quoi. Voir déjà, parce que si déjà ils n'arrivent pas à gérer ça, je vois pas l'intérêt en plus de mettre Deceased dans, dans un univers non Elsewhere.
À suivre, c'est en avril, en mai? En mai?
Mais oui, je crois.
Le premier, je crois même, ouais, ok. Deux petites choses d'univers de Spider-Man. De Spider-Man, putain. De Superman qui s'étend, avec a priori une série Lois Lane et une série Jimmy Olsen. Étrangement, quand j'ai lu que tu avais noté ça sur notre petite liste, Boris, je me suis dit, mais on l'a pas vu sur les post-it de Brian Bendis, hein.
Si, c'est. Alors, a priori, ça va faire suite ou ça va être intégré dans l'événement Léviathan. Moi, je suis pas Superman de Bendis, donc je sais pas trop ce qu'il en est, mais je crois que c'est ce qui est prévu, hein. Il a prévu.
Je crois que c'est Action Comics, Léviathan, de mémoire.
Ouais,
bon,
mais je crois que c'est quelque chose qui va recouvrir plusieurs séries et qui sera dirigé par Bendis. Et donc, suite à cet événement, ils vont lancer deux mini-séries je pense que c'est des mini-séries. L'une par Greg Rucka et Mike Perkins, Lois Lane, et l'autre par Matt Fraction et Steve Lieber, Jimmy Olsen. Okay.
Alors j'ai pas eu le temps de vérifier sur mes singles de Bendis, mais franchement sur les petits post-it autour de l'ordinateur qu'il y a toujours traditionnellement en première page de ces numéros, voilà, je suis pas sûr que ça soit pas apparu.
J'ai jamais fait attention.
Ah, il y a plein de trucs sur ces post-it.
Ça avait été évoqué a priori l'été dernier déjà quand il a commencé à démarrer sur Superman.
Ok.
Mais bon, comme je suis pas.
À suivre donc, tout comme Elmer Fudd.
Ah oui, je suis.
Elmer Fudd qui. Parce que ça, c'est autre chose, Elmer Fudd. Elmer Fudd qui revient dans Batman 67.
Oui, ça aussi, j'ai découvert ça aujourd'hui. A priori, après le crossover là, qui est actuellement avec Flash, l'épisode de Batman 67 serait intégré à l'arc Nightmare et ferait suite au one-shot avec Elmer Fudd, qui était très bon. Alors, reste à voir. Toujours avec Lewix au dessin, encore une fois.
Ok, donc, ok. Pourquoi pas. Tom King est plutôt, comment dire, habitué de ces petits trucs comme ça, des petits épisodes qui paraissent être des one-shots et qui finalement, un an après, reviennent pour une suite. On pense au Master Bruce qui est revenu il n'y a pas longtemps, alors qu'il avait juste fait une apparition dans un petit épisode comme ça, il y a un an. Donc, ouais, ok. Et puis pour les fanboys de Valiant, je regarde particulièrement Anthony et Erwan en disant ça, une série Psylords avec Fred Van Lanty qui ferait son retour. Donc, du coup, l'univers Valiant pour lequel on s'inquiétait, bon, semble quand même relancer des choses en ce moment. Donc
c'est pas mal. Voilà, il y a pas mal de mini-séries qui redémarrent là, ce mois-ci et le mois suivant. Donc oui, il semble redémarrer sur des.
Alors, on
des
était un peu inquiet hein, dans le dernier épisode qui était l'épisode consacré aux Awards. On se disait un petit peu, Valiant, il n'y a plus grand chose en ce moment, donc c'est bien s'ils repartent un petit peu.
Oui, alors après, je ne connais pas du tout. A priori, c'est une reprise d'une série des années 90 qui existait déjà, que je ne connais pas, mais donc ce serait un redémarrage, quoi.
Allez, ce petit tour rapide des choses qui viennent d'être annoncées ou de tomber étant fait, on va passer à quelques chroniques. Alors, je dis quelques. Certains en ont mis quelques, d'autres non. Hein. Je n'accuse personne. Et on va commencer avec au pif, ordre alphabétique oblige, à l'envers. Ce sera du coup Clément. Voilà.
Ordre alphabétique. Il est chelou ton ordre alphabétique.
Clément qui va nous parler de ce qu'il a envie parmi ces trois titres, ce dont il a envie plutôt.
Ouais, je vais commencer par DC Comics.
Si tu veux.
Du coup, parce qu'après ça sera deux comics indés de Image.
Alors c'est parti pour DC.
C'est parti. Donc Heroes in Crisis, qui fait son bout de chemin. Donc là, je crois que j'ai un doute si je me suis planté sur la numérotation, mais c'est bien le numéro 5.
De mémoire, oui. Le dernier que j'ai lu, c'est le 5.
Récemment. Bon, c'est un peu toujours la même impression que les numéros précédents, c'est-à-dire c'est toujours assez étrange. C'est toujours assez étrange, mais ça commence à avancer et clairement il y a de plus en plus d'indices qui laissent sous-entendre qui serait derrière tout ça. Donc c'est assez prometteur parce que vraiment je suis curieux de voir comment Tom King va établir cette conclusion. Et puis bon, les dessins sont toujours de Clay, c'est ça ? Je sais plus le nom.
De Clayman.
Clayman, c'est ça. Ils sont toujours fabuleux. Enfin, moi, j'adore. Et donc, c'était un bon numéro. Globalement, je trouve que le titre est pas de qualité exceptionnelle, mais vraiment de bonne qualité. C'est une bonne mini-série, pas comme une autre avec Superson et Robin. Bref. Donc non, c'est cool et ça tient pour le moment, je trouve que ça tient ses promesses.
Qui est à jour là-dessus?
Moi, je suis à jour. J'ai failli renoncer.
Alors quand tu dis ça, je te sens pas hyper emballé.
Ouais, je vois.
C'est qu'à chaque épisode, je me dis, est-ce que je continue, quoi. C'est assez frustrant quand même comme lecture. Oui, ça avance pas beaucoup. C'est vrai que cet épisode-là apporte quelques indices, quelques bons passages avec le discours de Superman, là, qui est pas mal. Après, moi, toutes les séquences en gaufrier 3 sur 3, j'arrive pas trop à voir ce que ça apporte pour l'intrigue. Je comprends bien que bon, c'est le Sanctuary là, avec les super-héros en dépression, mais j'arrive. Enfin, je trouve que ça, je sais pas si ça s'intègre bien, j'en sais rien. Je trouve que voilà, ça, 9 parties, il aurait sans doute pu réduire largement et puis faire quelque chose d'un peu plus condensé et plus dense. Ouais. Et ça aurait été sans doute meilleur, quoi.
Si je me trompe pas, à la base, la série était prévue en 8 numéros, je crois.
C'était 7 et il a rajouté 2 one shot. 7 et il a 2 one shot sur des personnages que pour l'instant on n'a pas vu a priori.
Ah d'accord, ok.
Donc je pense qu'il...
Ouais. En 7, clairement, ça c'était justifié. Mais après, là pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi justement j'aime beaucoup ces pages en gaufrier, comme tu dis, parce que je trouve ça intéressant. C'est vraiment sur la psychologie des. Enfin, c'est toujours dans ce qu'avait annoncé Tom King et là, pour le coup, il ne nous a pas menti. C'est qu'il y a cet aspect psychologie des personnages qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est bien amené et que ça donne un regard différent de ce qu'on pouvait voir auparavant. Enfin, je trouve qu'il y a un truc intéressant par rapport à ça.
Certaines fois, moi, je trouve. Enfin, je vois, je comprends pas forcément. Voilà. Il y a des fois, on se demande.
Ils sont plus dispensables, voilà. C'est sûr. Après, moi, je les vois comme. On sait qu'il y a que tout aurait dû être effacé et que finalement, peut-être pas. Et ça. Je les vois comme les choses qui fuitent en fait et.
Ah, c'est vrai.
Un peu comme ce qui pourrait être diffusé au grand public, etc. Par petites gouttes comme ça.
C'est vrai.
Donc du coup ça me gêne pas. Moi je suis juste effectivement cette sensation d'étrangeté par rapport à une mort en particulier ou peut-être que Dead is not dead au final.
Bah surtout enfin ouais du coup
on
tu verras.
Pas, on va pas spoiler parce que c'est pas l'objet mais.
Tu verras mais la fin du numéro annonce vraiment quelque chose d'intéressant parce que là pour le coup ça avance.
Mais je l'ai lu hein.
Ah tu l'as lu?
Oui.
Donc tu vois à quoi je fais référence c'est intriguant.
Donc voilà, cette petite impression de bizarrerie par rapport à un des décès en particulier que j'ai depuis le début, voilà, a tendance à s'épaissir. Bon, ça reste cool. Enfin, moi, j'apprécie toujours la lecture de ce truc-là, donc pour le moment, ça me va. Et si on reste du côté de DC, qui d'autre a du DC? Eh bien, Boris, tu as du Justice League Dark, par exemple.
Alors, le Justice League Dark, oui, c'est le 8e épisode. Donc, je suis la série depuis le début, donc... Et depuis le début, j'aime beaucoup en fait. J'étais pas, c'est pas un univers forcément l'univers magique de DC qui m'attirait, mais c'est James Tynion-Ford qui m'a donné envie d'aller jeter un œil. Et depuis, je lâche plus cette série. Donc là, c'est le 8e épisode. Depuis le crossover avec Wonder Woman, donc le monde DC Comics est attaqué par une entité maléfique qui s'appelle The Other Kind. Et qui s'en prend aux magiciens, aux personnes qui détiennent des pouvoirs magiques. Voilà. Et donc l'équipe est constituée de Zatanna, Wonder Woman, Man-Bat, Bobo, Swamp Thing et il y avait Constantine aussi qui pour l'instant est un peu mis de côté. Et ils essaient justement de défendre le monde de cet ennemi et c'est vraiment super bien écrit. C'est du James Tynion-Ford, donc c'est assez bavard, ça se lit pas en 3 minutes, mais c'est pas du bavard pour être bavard, quoi. C'est vraiment très, très bien fichu. Et puis graphiquement, c'est toujours assez excellent. Il y a deux artistes essentiellement, je crois qu'ils avaient travaillé déjà avec lui sur Detective Comics, et qui font un super boulot. Moi, je trouve que c'est vraiment une série intéressante à suivre. C'est toujours très dense, il y a toujours beaucoup de choses. Les différents membres de l'équipe ont chacun droit à des sous-intrigues qui reviennent régulièrement. Il a semé des indices dans les premiers épisodes qu'il réutilise là dans ce 8e épisode. C'est vraiment solide, quoi. Et puis, il y a toujours un peu une petite pointe d'humour qui est bienvenue. Je trouve que c'est vraiment bien écrit.
Voilà. Celle-ci, je l'ai arrêtée après le crossover, justement, avec Wonder Woman. Parce qu'en fait, j'arrive pas à la lire en single. Et je me dis, je vais la continuer en TP, peut-être que d'avoir des arcs un peu plus complets d'un bloc, etc. Ça conviendra mieux. Autant son Detective Comics en single, je ne pouvais pas le lâcher. Autant celui-là, j'avais toujours un moment pour me remettre dedans, etc. peut-être dû à la densité, je ne sais pas. Et du coup, bah, je continue de rentrer. Ça, je le trouve super bien, mais voilà, je retrouve pas ce petit truc qui me tenait en haleine comme son Détective Comics.
Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, quand on redémarre un épisode, il faut se remettre un peu en tête ce qui s'est passé, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais à chaque fois, voilà, une fois que je suis reparti dedans, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi.
Bah, puisqu'on est dans les séries que j'ai arrêtées, alors celle-ci c'était pour la continuer en TP, la prochaine à mon avis non. The Green Lantern de Grant Morrison et Liam Sharp au dessin, on en avait parlé la dernière fois qu'on avait fait une émission, on avait juste eu le premier numéro et peut-être même le deuxième à l'époque. Et bon, autant le premier moi m'avait emballé, autant je me rappelle Erwan était un peu mitigé.
Oh oui.
Je ne trahis rien en disant ça, hein, je crois. Bon, bah, j'ai persisté, le 3, et puis à la fin du 3, je me suis dit non, j'arrête, et bon, j'ai oublié de virer le 4 de mes précommandes, donc je l'ai lu. Je vois pas, voilà, je comprends pas trop le délire. Ouais, je suis hyper perplexe, voire paumé face à ce truc-là. Je vois pas du tout où ça veut aller. On en est déjà à un tiers de la mini-série, et. Bon.
C'est une mini-série, Green Lantern.
Et, ouais, une maxi même, puisque c'est en 12.
Ah, j'étais persuadé que c'était en ongoing.
Bah,
Je change de quoi.
ça a été annoncé comme limité en 12, sans empêcher pour autant que Morrison puisse rester après.
D'accord.
C'est ce que j'avais compris, oui. C'est 12 et si ça fonctionne, il continuera.
Bah, moi en tout cas, pour moi ça fonctionne pas. Il y a une espèce de. Bah, je sais pas, je comprends pas le délire. C'est juste ça, j'accroche pas du tout au délire. Et maintenant qu'on en est à 3-4 numéros et que j'ai lâché, bah, je vois ce qu'Erwan disait dès les premiers numéros en disant ouais, ce truc-là. Où est-ce que ça va aller, quoi, au final? Morrison part dans un délire, un truc. Bon, je sais pas.
Moi je la suis, pour l'instant ça va, si je puis dire, c'est pas très enthousiaste, mais à chaque fois effectivement on se demande un peu où il nous emmène quand même. Mais là le 4, voilà, au début, ouais, effectivement on est un peu perdu, c'est aussi ça qui me déplaît pas. Et puis bon, à la fin on comprend un peu comment il a construit son épisode, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Maintenant la direction générale effectivement est assez floue pour l'instant, c'est pas clair clair.
Alors j'ai le malheur de lire le soir, donc est-ce qu'il faudrait que je lise un moment de la journée où je suis plus éveillé intellectuellement et auquel cas voilà. Mais ouais, c'est franchement le 2 m'avait fait ça, le 3 aussi et le 4 pareil, je commence à le lire et bah, je tombe quoi, je tombe dessus.
C'est pas simple à lire en plus, hein. C'est faut suivre. Hein.
Donc bon, c'est fini pour moi en single, on verra si vraiment ça se décante d'ici la fin de la mini, fin des 12 épisodes, est-ce que ça vaut le coup que je prenne une édition collectée ou pas? En tout cas, moi pour le moment, c'est non quoi, c'est stop. Erwan, tu n'as pas continué, on est d'accord.
Et non, j'ai pas du tout continué.
Donc voilà.
Bon, je serai le dernier des Mohicans à continuer.
Et ben voilà,
je
peut-être que tu
vous
nous
dirai.
convaincras de craquer pour un TP. Voilà. Mais bon, a priori, pas sûr. Dommage. Dommage. Si on reste toujours dans l'univers DC, Anthony, tiens, tu voulais nous parler de quelque chose, toi qui est sorti. Alors, il y a un petit moment en VO qui est plus récent en VF, DK3, que tu as lu, je pense, d'un coup, c'est ça?
Oui, DK3, donc c'est un peu particulier puisque DK3, ils ont sorti deux, enfin, ils ont eu deux méthodes d'édition. Une première méthode où, en fait, c'était des micro-albums qui regroupaient deux numéros de la mini à 14 euros. Donc, j'avais trouvé ça un peu cher. Je ne doutais pas qu'Urban allait rééditer. Alors, à l'époque, on ne savait pas tellement quand, mais une édition compilée. Donc, elle est arrivée maintenant. Alors, dans la collection DC Black Labels, qui, encore une fois, après avoir accueilli, on va dire, de Sean Murphy.
White
Cette
Knight.
collection, c'est White Knight, ouais. Cette collection chez Urban, donc DC Black Labels, trouverait mieux dans l'édition française, très, très clairement. C'est sobre, ce sont des gros bouquins. C'est quelque chose d'encore plus épuré que les éditions d'Urban qui sont déjà, on va dire, simples dans leur forme. Et là, voilà, là, c'est un petit peu la quintessence même de ce que peut faire Urban sur de l'édition. Donc, je tenais à le dire parce que j'adore l'objet. Déjà. Ensuite, sur le récit, alors je vais peut-être me faire, mais moi, Frank Miller, c'est pas quelqu'un c'est pas un auteur qui me passionne. Je trouve son œuvre intéressante et cohérente. Maintenant, j'y vois pas une sorte de génie. J'y vois quelqu'un qui a apporté quelque chose de média à un instant T, mais c'est à peu près tout. Donc pour moi, Frank Miller n'est que Frank Miller. Donc DK3, c'est la suite forcément de DK2. et donc de Dark Knight Returns, œuvre qui là pour le coup est assez culte pour ce qu'elle a apporté. Deux trucs que j'ai dans ma mémoire qui sont très très loin, donc il y a peut-être certaines références que j'ai pas forcément vues. Donc DK3, ça reprend le statu quo de la fin du 2. Donc Superman et Wonder Woman ont une fille. Batman est supposé mort, donc évidemment on va bien très vite se rendre compte que ce n'est plus le cas. Sarah Robin, j'ai oublié son prénom. Carrie Kelly. Carrie Kelly qui a grandi, qui peut porter le manteau. Et toute cette intrigue va tourner autour d'une des thématiques que Frank Miller avait, était proche de ce genre de parler. Mais ça traite de la xénophobie, principalement, puisque, réalisé par Brainiac, donc Kandor, va réapparaître sur Terre. Et forcément, les Kryptoniens qui étaient enfermés dans cette de neige, pouvoir prendre contrôle de la Terre avec tout un sous-texte invasif d'une espèce qu'on ne comprend pas, qui vient de l'extérieur. Voilà, c'est un peu aujourd'hui. Ça le traite plutôt bien. Je vais pas m'étendre très longtemps sur la série parce que moyen graphiquement. Donc c'est pas écrit par Frank Miller. C'est vrai que je me perds un peu, mais c'est Carello avec Frank Miller, on va dire, par-dessus son épaule, un peu tout ça. Il va notamment dessiner certains backups qui ne sont pas très beaux du tout. Ils sont bien écrits, par contre. C'est des petits numéros courts, mais assez subtils, étonnamment. Donc ça marche plutôt bien. L'histoire en elle-même, bah voilà, c'est Batman qui va devoir prendre les armes contre une armée de Kryptoniens. J'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Très honnêtement, j'ai pas trouvé ça brillant ni percutant. Plus super beau, Andy Kubert fait du Frank Miller à l'époque. Donc c'est bourru, musculeux, il y a des petits problèmes d'échelle. Je comprends pas pourquoi Lara, donc la fille de Clark et Wonder Woman, je comprends pas. Le personnage est dessiné donc le personnage l'évite, mais il est représenté à jour. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a quelques planches qui tapent bien, vraiment, un peu brouillon. Je suis un peu confus sur cette mini maxi série. À qui ça s'adresse? Les fans de Miller, pas tellement, parce que c'est écrit par Azzarello. Ça me paraît plus sage que ce qu'il écrivait à l'époque. Pour les fans, voilà.
Ok, juste petit point technique. Est-ce que je suis le seul à entendre Anthony en saccadé?
Non,
pareil.
Ok. D'habitude, c'est un peu le cas, mais ça marche sur le fichier. Il y a pas ces saccades là. Mais là, depuis une minute, je dirais, c'était assez dur. Donc, je verrai sur le fichier ce que ça va donner. T'as une bonne connexion?
Moyenne.
Ouais.
Ah, ça doit être pour ça.
Ça doit venir de là alors. Parce que ouais. Bon, je pense que d'habitude sur le fichier ça se ressent pas trop, donc
En tout cas, si je peux récap, DKR c'est moyen, que ce soit à l'écrit et au dessin, mais c'est très beau dans le bouquin d'Urban.
Okay.
Le bouquin d'Urban est très beau. Voilà.
Parfait. Est-ce qu'il nous reste du DC à écluser? On a un titre qui fait débat, nous dit Erwan. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai pas lu celui-là.
Ah ouais? Alors ce titre, ouais, c'est le Female Furies qui sort un peu nulle part avec en surfant un peu sur la vague du Mister Miracle qui est sorti l'année dernière en VO et qui débarque chez nous le 10 mai chez Urban. Et en fait, Female Furies, ça reste dans cette ligne-là du quatrième monde, si je dis pas de bêtises. Donc c'est écrit par Cécile Castellucci, que je ne connaissais pas du tout, qui a notamment bossé avec sur Shade de Changing Girl et Changing Woman chez Vertigo, et elle a fait pas mal de récits, tout ce qui était Young Romance et Mystery in Love chez DC Comics. Et au dessin, on a Adriana Mello qui a bossé sur Witchblade et qui a bossé pas mal avec Gal Simone sur Bird of Prey et Plastic Man récemment. Donc on a quand même aux commandes deux femmes plutôt engagées du côté, on va dire, féministe. Et au niveau du récit, en fait, ça se ressent beaucoup. Et c'est ça qui fait polémique. Parce qu'en fait, Female Furies, comme le nom l'indique, c'est basé en fait sur les Furies de Darkseid. Mais là où c'était un petit peu ingénieux, j'ai trouvé, c'est que, en fait, ils ont tourné Apocalypse en régime sexiste et patriarcal.
Ah, C'est original.
C'est super original, et en plus de ça, la Cécile Castellucci, qui est derrière le récit, elle revendique qu'elle a surfé sur le mouvement MeToo pour écrire en fait cette histoire-là. Donc en gros, ce qui se passe dedans, donc en plus le premier il est très riche, hein, il se passe plein de choses, et c'est très rythmé, c'est vraiment... J'ai adoré le lire, clairement. Donc en fait ça alterne entre la jeunesse de Mamie Bonheur, qui essaie de trouver sa place au sein du régime de Darkseid, avant d'être affectée à la nursery telle qu'on la connaît actuellement. Et le problème, c'est que bah, la plupart des hommes qui sont au sein, parce que c'est la seule femme qui est au niveau du conseil de Darkseid, eh ben, elle se fait moquer parce que c'est une femme. Ils disent même qu'elle ira à la nursery parce que c'est un travail de femme et que c'est sa place qui est ici. On a du sexisme ordinaire qui est vite traité dedans. Il y a de l'abus de pouvoir. Il y a une scène qui fait très rage au niveau de Darkseid qui commet un viol, clairement. Il y a de l'abus de confiance. Tel qu'on a pu le voir avec les actualités récemment, avec tous les, comment dire, les directeurs de casting des cinémas, etc. Donc, qui conseillent les nanas, etc. Et puis qui les pelotent en douce. Donc, il y a vraiment ça qui est retranscrit dedans. Et puis, oui, il y a pas mal de remarques. C'est-à-dire qu'elle se laisse, elle se laisse marcher sur les pieds pour essayer de garder sa place. Tout ce genre de choses qui est vraiment bien traité dedans. Donc ça, c'est le parallèle qui est fait avec son passé. Et en même temps, on voit que elle a, comment dire, elle a modelé en fait ses furies pour pas que justement elle subisse ce qu'elle a vécu elle dans le passé. Donc en fait, l'entraînement qu'elle leur prodigue, c'est une histoire de revanche sur Apocalypse. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que ce qu'elle a vécu elle, ça se repasse encore sur ses protégés à elle. Sauf que évidemment, ses protégés sont mieux entraînés, et donc forcément, bah, ça se passe pas comme prévu. Et les mecs qui essaient d'abuser des furies, et bah, ils prennent plutôt cher. Donc clairement, c'est plutôt bien écrit, c'est très riche, c'est actuel, et puis bah, c'est assez couillu en fait, je trouve. Même si c'est écrit par des femmes, je trouve ça très couillu d'avoir fait ça, vu le climat actuel qu'on a en ce moment au niveau des femmes et de leur traitement, qui est assez dégueulasse, je trouve.
Bon, c'est ce qui est rassurant, c'est que finalement, DC ne cède pas à toutes les pressions.
Ouais.
Bah, j'attends de voir, parce que là, les critiques sont assez cinglantes. Hein. Il y en a qui disent clairement que Jack Kirby serait déçu s'il lisait ça, que c'est horrible. Il y a vraiment plein de trucs qui sont assez des trucs contradictoires avec De Sade. Donc je sais pas, faut voir ce que ça vaut. Le premier est sorti là, il y a quoi, il y a une semaine, il y a deux semaines, je sais plus.
Intéressant.
On va voir ce que va donner la suite. C'est une mini-série en 6 épisodes, donc à voir si ça va rester sur cette lignée-là. On sait tout ce qui se passe avec en ce moment avec le Black Label et tous les micmacs qu'il y a autour de la sortie du Batman Name 3. Donc à voir si ça va se contenir là-dessus. Je pense pas. Après, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que c'est toujours pareil. On met des nanas en position sexualisée, ça critique. On met des nanas en position, on va dire, réaliste. Avec ce qui se passe actuellement, on essaye de les défendre, etc. Et ça va pas non plus. Donc à un moment, je sais pas trop ce que les gens attendent. Mais voilà. En tout cas, je pense que c'est un titre. Si ça reste sur cette ligne-là jusqu'au 6... Il risque de faire parler de lui, je pense.
Ok. Je comptais le prendre en TP, puisque je vais d'abord me faire le Mister Miracle que j'attendais en édition collectée, donc ça arrive. Je vais lire ça, et puis après le TP de Female Furies, ouais, je comptais le faire dans la foulée, parce que comme ça surfe évidemment sur cette série-là, je voulais avoir lu l'autre avant. Ok, bah, peut-être que pour répondre à ta question, un peu ouverte, peut-être que la solution serait finalement d'arrêter de chercher et de plaire à tout le monde.
C'est ça, ouais.
Totalement.
Peut-être. DC. Ah, Batman Who Laughs. Mais pourquoi tu lis ça?
Mais oui, pourquoi? En plus,
je ne sais pas, si. Parce que j'avais bien aimé Black Mirror de Snyder et Jock. Alors que Snyder.
Un homme de goût.
Ah, mais il y a Metal qui a eu lieu depuis.
Oui. Je ne sais pas, j'ai pas lu ça. Donc pour moi, c'est pas.
Des New 52 aussi.
Je suis capable de prendre comme ça des séries en n'ayant rien lu pendant 2-3 ans du scénariste, il n'y a pas de problème. En plus, ça va, on s'y retrouve. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir lu tout ça pour comprendre la mini-série. Je suis allé voir parce que bon, Black Mirror m'avait beaucoup plu. Je me suis dit, tiens, le duo se reforme.
Oui, pourquoi pas.
Peut-être être aussi performant. Et c'est pas mal du tout. Hein. Là, on en est à l'épisode 3. Donc, le personnage échappé de Metal, le Batman Wolof, est arrivé, donc débarque à Gotham, et s'en prend soit des proches, soit des ennemis de Batman, et vient mettre le bazar, on va dire. Et donc Batman doit se démener, trouver des solutions pour arriver à se défendre et à défendre sa ville, puisque ce vilain veut s'en prendre à la ville de Gotham, notamment en contaminant, ou enfin on suppose, ou en s'en prenant au système d'irrigation. Il veut faire quelque chose, donc on ne sait pas trop exactement quoi. Et donc dans l'épisode précédent, Batman venait chercher l'aide de James Gordon, le fils du commissaire, et donc on en restait là. Donc là, il vient lui poser quelques questions du fait de son passé criminel. Il veut l'utiliser pour essayer de comprendre comment fonctionne le Batman Wolof. Et évidemment, ça va pas vraiment se passer comme il a prévu. Comme j'ai pas lu Metal et je sais pas exactement, alors je suppose que il y a différents Batman qui interviennent, qui doivent venir du monde du Batman Wolof. Je sais pas exactement, qui viennent combattre Batman. Et finalement, il se passe quelques événements pas prévus. Alors, c'est bien rythmé. Moi, je trouve que c'est pas mal écrit. Pourtant, à part American Vampire, que j'ai beaucoup aimé, je suis pas un fan de Scott Snyder. En général, je trouve que c'est trop, trop grandiloquent. Il y a trop de trucs. Il veut tout changer, tout remodeler. Là, c'est pas trop ça. Ça reste relativement intimiste, on va dire, pour du Snyder. C'est bien rythmé. Il y a une bonne intrigue. Jock au dessin, vraiment, fait un sacré boulot. C'est bien. Et j'ai envie de continuer. Bon, c'est une mini-série en 6. Hein. Donc, j'irai au bout de la mini-série. Je pense que c'est pas mal foutu. Voilà. Alors après, il y a un one-shot prévu supplémentaire, je crois. Ah. Je dirais peut-être au mois d'avril, je crois. Et bien sûr, l'annonce a été faite. Ça va devenir une série ongoing à partir de juin ou juillet, je crois. Là, je pense que j'irai pas. Mais là, cette série en 6, je pense que ça peut être pas mal. Et moi, pour l'instant, ça me plaît bien. C'est agréable.
Une mini-série qui finit par avoir des one-shots, puis qui devient un événement, ça me rappelle quelque chose. Metal ? Ah oui, Snyder, encore.
Oui, bon. Oui. Ça... Non, mais franchement, c'est agréable à lire. Il y a une vraie tension, une vraie intrigue qui se met en place, et c'est pas désagréable. Donc, non, c'est bien.
Ok, je troll, mais bon. Après tout, si c'est pas mal, pourquoi pas. Du DC, il nous en reste plus, je crois. Si, le Batman Rebirth, Anthony voulait nous faire un petit point sur Batman Rebirth.
Très très rapidement, donc les kiosques, à savoir le numéro 20 et 21, est-ce qu'on m'entend ?
Oui.
Oui.
Le numéro 20 et 21, donc c'est toujours un kiosque un petit peu bâtard, puisqu'on a du Batman, du Detective Comics, du Justice League et du Action. Je vais parler que des séries Batman, puisque c'est les seuls qui m'intéressent. Vraiment acquis à la cause de... Alors,
là, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud. Chez moi, en tout cas, c'est hyper chaud de t'entendre.
Non, j'arrête. Moi non plus, je comprends pas.
Je comprends pas bien. Ouais.
Mieux.
Non, c'est pas mieux. Non, mais vas-y, fais une déco-reco. Et puis, pendant ce temps, du coup, Boris gagne 30 secondes pour nous parler de Green Lantern Earth One.
Alors, rapidement, 30 secondes.
Sans spoil.
Donc, c'est la...
Sans D'accord. spoil, évidemment.
Ok, on va faire un... Donc, c'est dans la gamme Earth One. C'est écrit par Gabriel Hardman et Corinna Becco, qui étaient déjà à l'œuvre sur Invisible Republic. Donc, c'est une relecture, on va dire, des origines de Green Lantern. Je vais pas raconter l'intrigue, s'il faut pas que je spoil. Ce que j'en ai pensé, c'est pas mal fichu. Je trouve qu'au niveau du rythme, ça manque un peu de régularité. Je trouve qu'au milieu du tome, il y a un gros passage à vide. Il y a un moment, je me suis dit, c'est un peu lent, il se passe pas grand chose, je m'ennuie. Et puis ça redémarre un peu plus sur la fin. C'est sympa, mais j'en attendais pas mal quand même. J'espère avoir vraiment un coup de cœur, on va dire. Et bon, ça se lit, c'est sympa, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Les dessins sont plutôt bons. C'est assez un trait un peu indé, et les couleurs sont assez sombres. Mais une bonne lecture, mais pas un essentiel. Et, okay. et s'il y a un tome 2, je suis pas sûr de poursuivre. Voilà.
Ok, nouvelle tentative du coup avec Anthony.
Last try. Donc je disais. Batman Rebirth.
C'est une tentative qui va pas marcher.
Il n'y a plus rien. Hein.
Bon, on va enchaîner. Si jamais à un moment tu reviens et qu'on t'entend clairement, voilà. Ça me fera du montage, mais c'est pas grave. On va continuer avec, du coup, y a-t-il du Marvel aujourd'hui? À part Anthony, bien sûr. Non, bah alors, de l'indé, du coup. Boris tente de s'exprimer.
Non, bah, du Marvel, je peux faire 30 secondes aussi sur Spider-Man. Amazing Spider-Man, surtout que ça va être mon dernier numéro en single, voire mon dernier numéro tout court. J'avais eu du mal un peu à démarrer la série de Nick Spencer. J'ai trouvé qu'à partir du deuxième arc, ça partait pas mal. Il avait trouvé un bon équilibre d'écriture entre humour, action. Il menait disposait des pistes, voilà, pour la suite, etc. Et puis là, depuis deux arcs, je trouve que ça avance pas. C'est pas très intéressant. Voilà, donc là c'était l'épisode 15, dessiné par Chris Bacalo, qui est pas non plus au sommet de sa forme, j'ai trouvé. C'était un petit épisode qui, voilà, un peu en l'honneur de Tante May, voilà, il venait sauver Tante May après qu'elle était dans un restaurant, où intervenait le rhino qui était chassé par deux vilains. Enfin, tout se recoupe un peu, mais ça fait un peu coïncidence, un peu trop facile. Et puis au final, au bout de deux épisodes, là, je me suis ennuyé. Donc ça termine un arc qui va terminer en fait le TPB 2. Donc si je vois que la suite est pas mal, je lirai peut-être en TPB. Sinon, j'arrêterai totalement. Je suis déçu, quoi. J'attendais mieux de Nick Spencer, clairement. Voilà, pour moi, en single, c'est terminé.
Alors que toi, Erwan, tu es Team Spidey.
Ouais, et puis en plus, c'est bizarre, parce que tu arrêtes juste avant le gros arc, là, c'est vraiment Planted avec Kraven, c'est vraiment le gros, là, qui arrive.
Ouais, mais voilà, je vais voir, je vais suivre un peu les critiques, voir ce que ça se dit. Si je m'aperçois que j'ai eu tort, je prendrai le TP. Mais là, j'ai pas envie, voilà, j'ai tellement de trucs à lire que je trie.
Donc, je te rejoins, j'ai lu le 15 du coup là tout à l'heure, et c'est vrai que bon, Bacalo, au niveau du dessin, ça dépend. Au niveau du visage, chara-design, j'ai un peu du mal au niveau de ses yeux. Il prononce trop les sourcils, du coup, c'est un peu bizarre. Par contre, au niveau des décors, je trouve que là-dessus, il fait vraiment un très beau boulot.
Ouais, j'ai pas accroché, moi. J'ai trouvé que c'était un peu léger quand même par rapport à ce qu'il a pu faire sur d'autres séries. Et puis c'est peut-être pas forcément super adapté au personnage de Spider-Man, je sais pas. Et puis l'histoire, enfin je sais pas ce que t'as pensé de l'histoire. Moi j'ai trouvé que l'histoire, là, l'arc en deux, 14-15, ça apporte pas grand-chose. Hein. Il continue à semer ses pistes, mais ça avance pas beaucoup. Et puis le gros de l'arc avec Tante May, là, ou alors j'ai pas saisi, hein, mais moi ça m'a pas passionné.
Bah, c'était de relancer en fait ton centre de nourriture, là, Fist. Je pense que c'était le but de l'arc, ouais. Des deux numéros, de lui faire prendre conscience que des gens aient besoin d'elle encore une fois. Mais je pense aussi c'est de faire converger tout vers l'event, hein, clairement.
Oui, on sent bien que voilà, il fallait qu'il arrive au 16 pour faire son event, là, mais bon, moi j'ai pas. Voilà. Pour moi, c'est clos.
Bien, à suivre du coup. Cette fois par la voix d'Erwan, puisque du coup ce sera le seul à continuer chez nous.
Oh oui.
Allez, on va aller du côté de l'indé pour le moment, pour terminer ces chroniques avec Clément. Oui. Je ne savais pas que tu lisais cette série, Blackbird.
Bah oui, je l'ai lu. Je l'ai lu.
Non, mais vas-y, hein. Vas-y, tu peux, après avoir tué les maths tout à l'heure, tu peux tuer la langue française tout de suite, y a pas de souci.
Je l'ai lu. Oui, j'ai voulu tester parce que, enfin, c'est con, hein, mais j'ai trouvé la cover du numéro 1 super belle.
Oh là, ne dis pas que c'est con parce qu'on est beaucoup à se laisser avoir par les covers.
Ouais, et du coup, enfin voilà, puis j'étais intrigué quand même. C'est, alors pour rappel, Blackbird, bon, c'est pas un chef-d'œuvre. Clairement pas.
Moi, je sais pas ce que c'est, donc vas-y, tu peux.
En gros, c'est un peu de la. Enfin, c'est ce qu'ils qualifiaient de la fantasy urbaine. Quand ils ont vendu le truc, ils disaient que c'était un mixte entre Harry Potter et Riverdale.
Ah, c'est pour ça que j'ai pas lu.
Ouais, pour le côté néon, qu'ils appellent néon. Ouais,
c'est pour ça que j'ai pas lu, parce que j'ai horreur quand dans une sollicitation on te dit oui, ça vous rappellera truc et truc. Voilà, j'ai pas envie qu'on me dise ce que ça doit me rappeler.
En gros, résumé brièvement, l'histoire, c'est le personnage principal, Nina, qui est persuadée d'être dans... qui est persuadée que la magie existe dans le monde réel, parce que sa sœur se serait fait enlever par quelque chose, par un monstre ou autre, et tout va partir de là. Donc, sur le début, c'est un peu long à se mettre en place, il y a beaucoup de numéros d'exposition. Et là, à partir du numéro 4, et c'était encore plus à partir du numéro 5, il y a eu des révélations. Bah, franchement, enfin moi j'aime bien, c'est pas prise de tête, c'est sympa, puis je suis assez faible parce que je trouve les dessins super beaux et ça joue vraiment sur l'ambiance. Je peux pas trop, enfin je peux pas dire du contenu parce que ça serait vraiment spoiler l'histoire, mais c'est de la fantasy. C'est vraiment de la fantasy, c'est limite un peu, comment dire, un peu niais par moment. Des dialogues qui sont pas très poussés, mais c'est intriguant. Il y a un univers qui est en train de se mettre en place. Je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Donc franchement, c'est sympa. Et donc c'est la série, c'est de Jen Bartel et Sam Humphries.
Ok. Et c'est chez Image?
Ouais, c'est chez Image. Donc là, c'est au cinquième numéro et le premier arc se termine le mois prochain. Donc c'est sympa. Okay. Après, j'ai pas l'impression que ça soit lu par énormément de personnes.
Bah écoute, pas par moi en tout cas, je sais pas, Boris, Erwan.
Non, c'est vrai que les couvertures sont belles, mais c'est tout ce que j'en connais.
Très bien. Et bah une autre série qui a de belles couvertures, et on va rester avec Clément, c'est Gag Down Falls.
Oui.
Moi j'adore cette couverture, voilà, pour le coup.
Oui, ouais, moi aussi, les couvertures sont magnifiques, et il n'y a pas que les couvertures. Alors, je crois que j'en avais pas parlé au dernier. Enfin, je sais plus si j'en avais parlé au dernier podcast, mais j'avais fait une mini review sur le numéro précédent, donc le numéro 10, que j'avais trouvé excellent. Mais vraiment, et là, le numéro 11, très rapide à lire. On a franchi un nouveau cap, c'est-à-dire, franchement, ça frôle honnêtement la perfection. C'est blindé de révélations. Sorrentino s'est surpassé, il est au sommet de son art. La construction des pages est juste dingue. Et voilà, c'est vraiment du lourd, mais du très très lourd. Je crois que c'est la fin du deuxième arc, si je dis pas de bêtises. Et ça se termine. Je vois pas comment ça va se terminer. Je vois pas où Jeff Lemire veut arriver. Mais le numéro était dantesque et c'est sans doute l'un des meilleurs numéros de la série en termes de construction. Il y a tout l'aspect. Là, pour le coup, c'est vraiment l'aspect horrifique de la série et la construction du numéro qui est géniale.
D'accord, donc je te confirme, c'est bien la fin de l'arc.
Ouais, c'est ça. Et apparemment, si j'ai bien compris, le troisième arc, ça serait dans le passé.
Ok.
Ce qui est un peu frustrant vu la fin du deuxième arc.
Ouais, Jeff Lemire, on avait déjà fait le coup sur une autre de ses séries de first. Voilà, et ça avait
marché. Je me souviens plus.
Bah, il avait coupé, c'est Descender qu'il avait arrêté pendant le temps d'un arc pour faire 4 singles, sur enfin 4 one-shots sur 4 personnages. C'était le troisième, je crois, déjà à l'époque.
Ah, c'est vrai. Oui, c'est pas faux.
Et ça avait marché parce que ça avait servi le reste. Donc,
c'est vrai. Oui, quand il fait ça, c'est pas anodin.
Ça, voilà, ça m'inquiète pas du coup.
Non.
Boris, tu avais adoré le numéro 1. Le numéro 2 de Criminal est-il aussi bon?
Eh bien, la réponse est oui.
Merci.
Tout à fait. c'est concis, c'est bien. C'est
ouais,
efficace.
Pas mal, ouais.
Bon, je vais développer un petit peu quand même. Donc, ce n'est pas la suite du premier. Ed Brubaker l'avait signalé dans son petit article en fin de premier numéro, que les épisodes ne se suivraient pas. Alors, il reviendrait bien sûr sur la suite du premier à un autre moment, mais que ça allait partir dans différentes directions. Et là, c'est tout à fait le cas, c'est une autre histoire. Donc, pour faire vite, c'est une histoire qui se passe dans le milieu des comics. Un ancien assistant d'un dessinateur un peu vieux quand même, et pas très agréable, est convié l'accompagner à une convention où il doit recevoir un prix. Donc il accepte un peu à contre-cœur, mais bon, il y va quand même, et on découvre le dessinateur, qui est un sombre connard quand même, hein, qui est très désagréable, et donc qui va l'embarquer, non pas dans le programme prévu pour la convention, mais dans des histoires un peu glauques, de vol, de contrefaçon, etc. Donc, bon, je ne vais pas en révéler plus, mais c'est toujours aussi efficace. Il mélange des personnages réels, donc il y a des noms de dessinateurs, de scénaristes de comics qui traversent l'épisode, et des personnages fictifs, évidemment. Et comme à son habitude, bah, il installe un suspense, une intrigue, des retournements de situation super efficaces. L'histoire ne se termine pas à la fin de cet épisode, on aura la suite à un autre épisode, je ne sais pas lequel. Et puis les dessins, Sean Phillips et son fils, puisque c'est toujours son fils Jacob Phillips, qui colorise, c'est toujours aussi bon et toujours aussi agréable. Hein. Ils sont toujours très 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 bons. Voilà, mais voilà, même un coup de cœur équivalent au premier, hein, franchement.
Ok, cool, Cool. Faudrait peut-être que. Voilà, ça fait partie du truc que j'ai encore jamais commencé, Criminal. Donc...
Ah, sacrilège.
Ouais, un jour peut-être. Un jour peut-être. Mais tu sais, il y a des trucs que je découvre très tardivement, hein, comme ce dont
comme.
Je vais parler maintenant. Hein, voilà. Je vais pas en dire beaucoup, je vais juste faire deux ou trois phrases. D'abord, pour dire Akileos, je vous aime d'amour pour le format que vous avez donné à cette série. Je veux parler de Giant Days. J'adore le format de ces bouquins-là. J'adore je sais pas, l'espèce de mi-souple, mais rigide. Je trouve ça super. Et puis le prix, quoi. Enfin, voilà. C'est assez
Ah
rare
ouais?
pour être souligné, mais c'est
C'est à combien?
10 € le tome 1 et après c'est 12 € par tome.
Ah ouais?
4 épisodes.
Je connais pas du tout.
Ouais, 4 épisodes à chaque fois. C'est une série boom, hein. Boom, de toute façon, c'est des TP en 4 la plupart du temps. Donc. Giant Days, pour la faire courte, c'est quoi? C'est bienvenue à l'université et vous allez suivre le quotidien de principalement trois jeunes filles et puis de toutes les personnes qui gravitent autour d'elles. Donc le casting n'est pas exclusivement féminin, même s'il y a quand même assez peu de mecs qui gravitent dans cet univers-là. En tout cas pour là où j'en suis, il doit y avoir je vois, deux ou trois personnages masculins. Mais vraiment, voilà, le focus c'est sur ces trois-là. Que dire à part que oui que c'est excellent, que enfin vraiment je suis tombé en amour dès la première page, hein, de toute façon avec cette série, donc voilà, les trois jeunes filles, je saurais même pas dire laquelle je préfère. Le casting secondaire est certes très light, il y a peu de personnages au final, mais ça suffit quoi, ça suffit à développer beaucoup d'intrigues avec un ton léger mais des sujets sérieux, et franchement, c'est très bien. Et voilà, on parlait de féminisme tout à l'heure avec Erwan et Female Furies. Et ben, on a une autre version du féminisme dans Giant Days. Et franchement, c'est très très bon. Et si je voulais en parler dans cette émission, c'est parce que le tome 6 sort là, chez Akileos, le 25, c'est ça? 26?
Oui, lundi prochain, voilà. Je sais
donc,
pas.
Oui, lundi, c'est ça, 25. Oui. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé, allez-y. Ça vous coûtera pas hyper cher de vous lancer pour le tester. Et puis, malheureusement, si vous êtes comme moi, vous allez vite devoir acheter la suite. En tout cas, le tome 6 sort là, dans quelques jours en VF. Et franchement, voilà, il faut foncer.
C'est effectivement un vrai petit bonheur à chaque fois d'ouvrir un nouveau tome. Et on en ressort plus gai, plus joyeux. C'est vraiment bien fichu.
Et on se reconnaît dedans aussi, surtout.
Complètement. Alors, même si ce sont des personnages essentiellement féminins, et que, a priori, nous sommes des personnes de sexe masculin, on arrive vachement à se reconnaître dans plein de situations. Que ce soit des situations de la vie étudiante, même si c'est le système américain, il y a quand même 2-3 trucs voilà, qui font sourire aussi. Et puis, pas mal de thématiques voilà, de la vie un peu de tous les jours. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des intrigues de super-héros, des intrigues qui vont changer le monde, etc. On peut juste suivre le quotidien de quelques personnes éminemment sympathiques et du coup prendre beaucoup de plaisir. Donc c'est cool.
Ouais.
Et puis si vous êtes pleinement convaincu, il y a quelqu'un parmi nous qui fait des reprises de ses covers de ces albums-là. Sur... je ne sais pas quelle va être la cover du tome 6, mais j'ai hâte.
Ah, je l'ai pas vu celle-là, faut
je l'ai pas
vu
la hein, non plus.
Ah, donc, si, ouais, moi je l'ai vu. Ça va peut-être pas être facile, hein, quoique.
Oh,
il y a de quoi faire. Il est imaginatif.
Voilà, rien ne peut le ralentir, je crois.
Non.
Voilà, allez, juste, on va terminer l'émission par quelques mots sur. Alors, pareil, je vais être assez rapide. Umbrella Academy, la série sur Netflix qui est sortie il y a maintenant à peine une semaine, que j'ai engloutie en quelques jours comme un gros porcasse que je suis. Je comptais les regarder un peu en dilettante parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire en ce moment. Et ben non, raté. C'était minimum 2 ou 3 épisodes par soir et c'est un bonheur total que cette série, vraiment. Ça fait plaisir de voir des séries. Alors, adapté de comics, certes, mais même indépendamment du fait que ce soit une adaptation de comics, voilà, c'est un produit qui, esthétiquement, visuellement, dans les sonorités, la bande-son, tout, enfin voilà, c'est pur, c'est léché, c'est beau, c'est bien construit, enfin voilà, c'est. Là, c'est pour le moment, en termes d'adaptation, il y a fight avec Titans et ses copines. Hein.
Oh, c'est clairement au-dessus. Après, par contre, ce que je précise, c'est que pour ceux qui comptent lire les comics, ça spoil à mort les comics parce qu'en fait,
ah, oui.
C'est en avance par rapport aux publications. Donc, si vous comptez lire les
ah,
comics, lisez-les d'abord et regardez la série après. Puisque, ouais, ça spoil. En fait, ça spoil clairement les 3 arcs qui vont être sortis, sachant que le 3e commence tout juste.
Oui.
Donc, ça,
ah, ouais.
Ça spoil.
C'est original, ça.
Bah, c'est comme Game of Thrones.
Ouais, c'est
oui,
pas.
Au final. Et puis, Pour le moment, on imagine que ça spoil. Après, on verra si ça spoil vraiment ou si le comics va s'écarter un tout petit peu au dernier moment du truc. A priori, non, parce que quand même, hein, la fidélité est...
Ouais.
est quand même assez, assez frappante. Mais non, c'est beau, c'est bien. Allez-y, quoi. Umbrella Academy. Et puis, pour ceux qui auraient raté la série en VF, qui est un peu compliqué à trouver, Delcourt la ressort la semaine prochaine. Donc là, plus d'excuses. Tu es le seul Erwan peut-être à l'avoir vu à part moi. Enfin, toi, t'as pas terminé.
Oui, il m'en reste un.
Il t'en reste un. Off. Oh,
c'est le dernier.
Il est fantastique ce dernier épisode. Boris, Clément, vous n'avez pas commencé.
Non, j'ai plus Netflix. Pas du tout, je ne... Ça risque pas.
Ah, ça, c'est moche.
Je ne suis pas de série, moi.
J'ai pas vraiment le temps non plus.
D'accord. Aucune série télé, Boris.
Non.
D'accord.
Pas le temps. Trop de comics à lire.
Ah merde.
Donc, j'ai... Oui, aussi, oui. Non, j'ai juste les deux premières saisons de Daredevil en DVD sous plastique quelque part, qu'il faudrait que je ressorte pour commencer la série.
Mais l'intention est louable, c'est bien.
Voilà, c'est un début.
Non, c'est,
non, c'est tout ce que j'ai. Non, j'avoue que
okay.
le temps me manque. Et puis c'est vrai que, alors les séries, je sais pas, le ciné, les super-héros au ciné, ça m'a gonflé. J'ai vraiment pas trouvé mon bonheur. Donc j'ai pas eu envie d'aller vers les séries, même si je pense qu'il y a quand même un esprit différent, puis il y a une plus grande variété.
Pas toujours.
Non, bon d'accord. Bon bah voilà. Ma motivation s'est...
Il y a quelques pépites comme ça, voilà, qui sortent du lot, mais bon.
Bah j'ai compris que Daredevil était sans doute une des séries à voir. Donc
oui, je pense que tu peux ouvrir tes blisters, oui, tu peux y aller.
Quand je trouverai le temps de défermer mes plastiques,
okay.
Je m'y mettrai. Voilà.
Eh ben, on a hâte d'entendre ce que tu en penses. Et ben voilà, on va conclure cette émission de chronique. Et puis on va se retrouver dans quelques jours, 10-15 jours maximum, pour vous faire une émission un petit peu particulière. On a un nouvel exercice pour nous, on s'est jamais frotté à ça. On va se poser la question, parce qu'à force de les critiquer quand même, hein, peut-être qu'il serait temps de proposer des choses... Comment on ferait, nous, à la place de Panini, avec Marvel en France ? Et ben voilà, on va essayer de répondre à cette question la prochaine fois, donc on vous donne rendez-vous, évidemment, d'ici une dizaine de jours pour entendre tout ça, et puis si vous avez des réactions par rapport au titre qu'on a chroniqué cette semaine, n'hésitez pas, Facebook, Twitter, même le mail, redac@comicstories.fr, si vous le souhaitez. Bonne dizaine de jours, bonne écoute à vous, et à bientôt.
Bonsoir.
Salut.
Salut.
Juste.